Session théologique par le père Marie-Dominique Philippe, le 5 novembre 1994 à Rimont, le Christ Rédempteur, quatrième conférence.
Vous avez dit que le Christ assume les conséquences du péché. Pouvez-vous préciser? Voyez, il n'assume pas la faute comme telle. Le contact avec Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a porté ce fait d'être comme séparé de Dieu. C'est la conséquence du péché. La conséquence du péché, c'est des fragilités plus grandes. Jésus a porté ses vulnérabilités. C'est ça qu'il a accepté toutes les souffrances, tous les rejets. Alors c'est cet aspect-là que je voulais préciser maintenant. Je vais vous préciser tout à l'heure. Pourquoi la possibilité de la souffrance dans le Christ, alors que l'âme humaine du Christ connaît l'union hypostatique dans la personne du Verbe? C'était la personne, hypostasis, ce qui se tient en dessous et ce qui tient tout le reste. Oui, la pierre angulaire, c'est la personne qui fait tenir tout. Alors c'est vrai, l'humanité sainte du Christ subsiste dans la personne du Verbe. Elle est unie à la nature divine par la personne du Verbe. Et donc cette nature connaît un épanouissement, une actuation unique. Mais cela n'empêche pas que Jésus, par le fait, j'allais dire, et à cause de ça même, Jésus a une plénitude de grâce, puisqu'il est tout proche de la source de toute grâce. Sainte Trinité et le Verbe. Et cela fait que Jésus connaît dans son humanité une sensibilité bien plus grande que la nôtre. Ce n'est pas une faute d'être sensible. C'est même heureux. Si on est la grosse bascule sur la place publique qui est une bouche que quand il y a 500 kilos. Ça existe, ça s'entend. Ou bien la petite bascule chez le pharmacien, où il suffit d'une poussière pour que ça bouge. Je me souviens, c'était à Fribourg. Je connaissais très bien un médecin spécialisé des nerfs. Alors il me parle de telle personne en me disant qu'elle est pas très équilibrée. Alors, je connaissais moi bien. C'était une sainte religieuse, dominicaine. Ah, tiens, moi je dis d'autre ne ressemble pas. Ah, mais c'est ce que je veux dire. Alors, écoutez, alors c'est pas négatif du tout. Quelqu'un qui ressent tout de suite des tas de choses, pour moi c'est une qualité. Tellement plus agréable de parler à des gens qui sont sensibles que de parler à des hippopotames. Ça fait partie de... Alors on dit, vous voyez, c'est un déséquilibre. Pourquoi ? Parce qu'on a une norme équilibre. Il n'y en a pas de norme équilibre. Chacun d'entre nous recherche son équilibre. C'est-à-dire, l'équilibre, c'est quoi pour nous ? C'est que tout aille vers le haut. C'était le point de vue spirituel. Qu'on soit capable d'adorer, de contempler, et d'aimer le prochain en le laissant passer devant nous. Et non pas du tout en s'imposant. Parce que ça, c'est l'hippopotame. Alors, Jésus avait une sensibilité bien plus grande que la nôtre. C'est des choses très belles d'Albert le Grand, quand il parle de la Vierge Marie, quand il dit que l'enfant Jésus ressemblait à sa mère plus qu'aucun autre enfant, parce qu'il n'avait pas deux atavismes, il n'y en avait qu'un. Et je trouve ça très très beau, parce que l'Esprit Saint, c'est pas un atavisme, il est là entièrement pour Marie et pour Jésus. Et donc, Jésus ressemblait totalement à sa mère. Et c'est pour cela que les Juifs considèrent que quand on a une mère juive, on est totalement juif, même si le père est un goïm. Tandis que si la mère était goïm et que le père était juif, on ne serait pas totalement juif. Sans le savoir, il proclame Marie. C'est très beau. Une ressemblance étonnante de sensibilité extrême. La Sainte Famille, ça devait être quelque chose comme sensibilité. Parce que Joseph suivait quand même. Donc Jésus avait une capacité de souffrance bien plus grande que nous. Parce qu'il aimait plus et qu'il était plus sensible. On souffre dans la mesure où l'on aime. Vous savez bien. C'est pour ça que les hommes ont toujours un peu de peine à aimer. Parce qu'ils n'aiment pas de souffrir. Je me souviens les conversations que j'entendais quand je prenais le petit train de Lausanne à Fribourg. Alors on avait les Vaudoises le matin qui disaient parler parce que c'était le train qui s'arrêtait partout. Les hommes travaillaient, les femmes étaient là, et elles se retrouvaient, elles allaient comme ça. Ça jacassait très fort. Et alors on disait tout le temps, disant, oh ce qu'il est douillé, mon mari, oh ce qu'il est douillé. Nous, on est habitués à la souffrance, on sait ce que c'est, tandis que les hommes, ils savent pas souffrir, ils ont peur de la souffrance. C'est un peu vrai, ça. C'est un peu vrai, c'est qu'on n'aime pas de souffrir. Quoi. Peut-être parce qu'ils aiment aussi, peut-être moins. Et on a peur de souffrir. Quand on aime, plus on souffre. C'est un fait, ça. Parce qu'on souffre d'une quantité de choses que si on aimait moins, on ne souffrait pas. Mais on a en même temps la force de porter. Hein. L'amour vous rend fort, mais vous rend très vulnérable. C'est le propre de l'amour, ça. Et bien Jésus était l'homme le plus fort qui soit au monde, et l'homme le plus vulnérable, et le plus sensible. Et comme il aimait avec une qualité, une intensité infinie, il avait une capacité de souffrance qui allait bien plus loin. Ça, on ne pourra jamais comprendre jusqu'où étaient les souffrances de Jésus, la tristesse du péché. Donc, vous voyez, le mystère de l'incarnation est en vue de la rédemption. Et c'est pour ça que le mystère de l'incarnation rendait Jésus plus vulnérable, lui mettant un plus grand amour, plus capable de souffrir, en vue du mystère de la rédemption qui devait se réaliser à travers le mystère de la croix. Et Jésus a donné à la souffrance comme à la mort, un sens tout à fait nouveau. La souffrance portée par amour devient un moyen divin extraordinaire. C'est ça que je voudrais maintenant regarder avec vous, pour mieux comprendre encore ce mystère de la rédemption. Quand je regarde le mystère de la croix, nous avons essayé de regarder dans la lumière du Père, de Dieu, dans la lumière de la sagesse divine. Je vous disais que le mystère de la croix et de la rédemption, c'est une grande victoire d'amour. Et c'est dans ce sens-là que c'est un mystère de gloire qui sera manifesté par la résurrection. Mais si je regarde le mystère de la croix d'une manière sociologique, d'une manière extérieure, le mystère de la croix est le plus terrible échec qui a eu lieu. Parmi les disciples du Christ, il y en a un qui trahit. Trahir dans l'ordre de l'amitié, c'est la chose la plus terrible, c'est la mort du cœur. Trahir quand il s'agit de quelqu'un à qui on a confié les secrets qu'on a donnés, tout ce qu'on portait dans son cœur, c'est terrible. Si ce n'est pas Jésus, on dirait qu'il les a mal éduqués. Un père maître qui ferait que sur 12, il y a un qui trahit, ferait des remarques, hein. Essayez de les éduquer un peu mieux. C'était la remarque d'un évêque anglais, avec tout l'humour anglais. Je lui demandais comment ça allait vers 1968-70. Alors il m'a simplement répondu, si je compare mon diocèse au mystère de la croix, ça va pas mal. Ce qu'il voulait dire. De l'extérieur, la croix est le plus terrible échec. Le reniement de Pierre, Pierre sur lequel Jésus comptait. La fidélité de quelques-uns de femmes, un seul disciple et quelques femmes. Il y a plus de femmes à la croix que d'hommes. Fidèles. Jésus est condamné comme un blasphémateur, comme un esclave. Il vaut mieux qu'il meure pour le salut du peuple. Il est vraiment traité comme le dernier des derniers. Et il souffre la souffrance du crucifié, qui est une souffrance particulièrement pénétrante, dure, lancinante. Il a souffert les deux flagellations. Il a souffert ce rejet terrible. Je crois qu'il faut comprendre que vu de l'extérieur, on est en face de l'événement le plus terrible comme échec, comme souffrance. Le démon est persuadé d'être victorieux à la croix. Vous voyez ? Lorsque Jésus a commencé sa vie apostolique, il a dit au démon, retire-toi Satan. Quand le démon venait le tenter, il voulait qu'il adore. Et le démon, parce qu'il est un orgueilleux, ne s'avoue jamais vaincu. Il faut comprendre la psychologie orgueilleuse du démon. quand il est vaincu. Quand il est vaincu sur un plan, il prend une stratégie d'enveloppement et revient sur un autre plan. Jésus l'a chassé au désert, il revient. Dans la dernière semaine, il revient dans le cœur de Judas. Il revient dans le cœur des grands prêtres. Condamné par les grands prêtres. grande pauvreté et le plus grand dépouillement jusqu'à sa mère. Il faut bien comprendre cela, parce que pour nous, c'est important de comprendre ce qui s'est passé. Seul l'évangile de Jean le raconte. Jésus, avant la croix, a institué l'Eucharistie. Et Jésus attend d'être crucifié pour donner Marie à Jean. C'est curieux, les deux grands dons qui sont les fruits de la rédemption. Les deux grands dons. Et pour nous, pour comprendre le mystère de la rédemption, il est très important pour nous de regarder ces deux dons. C'est à travers le mystère de la croix que Jésus se donne de cette manière si étonnante. Le don de son corps et de son sang, selon ce mode sacramentel, c'est le fruit direct de la croix. Et c'est vrai que le mystère de l'Eucharistie, je vous le disais tout à l'heure, nous aide à mieux comprendre le don de la croix. Parce que l'Eucharistie, c'est le sacrement du don, c'est le sacrement du salut, c'est le sacrement de la rédemption. Et l'Eucharistie fait éclater, dans la très grande simplicité, la qualité du don que Jésus nous fait par la croix. Puisque c'est l'aliment dont on use le plus. C'est le don par excellence. Le pain. C'est le Père qui donne le pain. Et c'est le don le plus extraordinaire qui soit, puisque non seulement on s'en sert, d'habitude quand on vous donne un très beau stylo, vous vous en servez, mais vous ne le mangez pas. On se sert d'un très bel habit, mais on ne mange pas. Le seul serviteur dont on se sert substantiellement, c'est la nourriture. On s'en sert de manière telle que cette nourriture, elle est absorbée par nous, elle est transformée par nous, et elle se transforme en être. Ça devient notre propre corps. On ne peut pas se servir plus de quelque chose que de la nourriture. Et à ce point de vue-là, on peut dire que l'Eucharistie, le mystère de l'Eucharistie, tout entier relatif à la croix, nous révèle l'absolu du don du Christ. Il se donne à nous comme le pain se donne à celui avec la grande différence, c'est que c'est lui le vivant. Et il nous absorbe complètement pour qu'on soit totalement transformé en lui. D'habitude, le vivant, c'est l'homme qui se nourrit du pain. Quand il s'agit de l'Eucharistie, c'est le pain consacré. Contient le corps de Jésus, qui est lié au corps du Christ, qui est le vivant. Et c'est ce vivant qui nous est donné pour nous prendre dans l'intimité. Et puis il y a le don de Marie. Alors on comprend que le don de l'Eucharistie soit fait avant la mort, puisque c'est le testament. Un testament doit être fait avant la mort pour qu'il trouve son application après la mort. Tandis que Marie, elle est donnée à la croix. L'Eucharistie est donnée aux 12, même Judas. Marie prix est donné à Jean seul. Et c'est sans doute à cause de ça que Marie est donnée à la croix. Parce que Jésus savait très bien que Jean serait seul à la croix. Et donc, c'est comme récompense de sa fidélité qu'il donne Marie à Jean à la croix. Il fallait l'épreuve de la fidélité. Et la croix est toujours l'épreuve de la fidélité. Je crois. Non seulement Jésus nous fait vivre une vie nouvelle par la croix, et cette vie nouvelle par la croix, elle est donnée à tous, mais à chacun en particulier, et d'une manière unique. Et Jésus veut nous apprendre à l'aimer. Mystère de la rédemption. Et ce mystère de la rédemption implique dans le don absolu de Jésus à chacun d'entre nous, implique le don de sa mère, si nous le voulons. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire, c'est très difficile pour moi de découvrir la Vierge Marie, parce que je n'ai jamais aimé ma mère. Au point de vue terrestre, j'ai entendu dire ça plus d'une fois. Et c'est très faux. Ce n'est pas notre psychologie qui nous permet de découvrir Marie. Psychologiquement parlant, ce serait très juste. Mais Marie nous est donnée comme un don de Dieu par le Christ et directement par le Christ. C'est comme un super testament, vous voyez. Si l'Eucharistie est le testament, Marie est le super testament. Parce que ce sont les secrets. C'est la bonne terre qui est donnée, celle qui gardait la parole de Dieu. Et c'est elle qui nous est donnée. Ce n'est pas nécessaire. C'est sûr, ce n'est pas nécessaire. Jésus est le seul sauveur. Ce n'est pas Marie. Mais cela fait plaisir au cœur de Jésus de voir que nous sommes unis à lui à travers le cœur de Marie. Il nous regarde comme il regarde Marie. Et Jésus mettait tous ses délices à regarder Marie. Et il l'aimait tendrement. Et si nous recevons Marie, Jésus peut nous aimer comme il aime sa mère. Cela fait pour nous une possibilité d'aller beaucoup plus loin dans l'ordre de l'amour. Marie est vraiment la surabondance du mystère de la rédemption. C'est sûr, ce n'est pas nécessaire, mais dans l'ordre de l'amour, vous savez bien, la surabondance est la plus grande nécessité. C'est la différence avec la justice. La justice est toujours rigoureuse. Tandis que l'amour, ce n'est jamais rigoureux. Et ça demande d'aller toujours plus loin. Ça demande de surabonder. Et par Marie, le mystère du salut surabonde. Parce que Marie a connu le mystère de la rédemption. Elle l'a vécu. glorifie le Père et nous sauve. Ça, c'est très important pour voir l'importance de la souffrance dans notre vie. Vous savez que le Saint-Père a fait une encyclique sur la souffrance. Il faut de temps en temps la relire parce qu'elle est très forte et très belle. Pour la grande liturgie.